Vous avez dit merci pour ta parole. Elle est la vérité, c'est vous qui l'avez dit. Maintenant, si je vais dire des choses qui ne vous plaisent pas, c'est quand même la vérité. Hein? Donc vous avez dit merci. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à écouter vraiment cette parole du Seigneur. Les disciples de Jésus avaient un privilège extraordinaire que nous n'avons pas. Par rapport à nous, c'était de vivre en permanence avec Jésus, de le toucher. Il était présent physiquement, on pouvait le voir, agir, entendre parler, peut-être plaisanter sûrement, manger ensemble, ils pouvaient vraiment le toucher. Quotidiennement, ils étaient ensemble. Et ils connaissaient bien Jésus à force de le fréquenter. Ils pouvaient parfois se dire, dans telle situation, bien, Jésus va intervenir comme ça, parce que c'est son habitude. Dans d'autres situations, il dira, ben Jésus, là, ça sera plutôt comme ça qu'il va intervenir. Tellement leur intimité était importante. Ils pouvaient prendre exemple sur lui, réagir autrement, aider Jésus dans son ministère. Eh bien non, rien de tout cela. Il semble parfois que leur cœur et leur esprit étaient fermés. Ils étaient aveuglés, ils ne comprennent pas souvent ce qui se passe. Nous avons l'impression qu'ils ne réalisent pas qu'ils vivent avec le Fils de Dieu. Et même bien souvent, ils se posent la question, mais qui est cet homme bizarre que nous fréquentons, avec qui nous vivons? Vraiment, ils avaient des étranges réactions face à Jésus. Nous allons examiner ce matin deux miracles, pratiquement similaires, qui se sont produits à quelques jours d'intervalle. Et comme nous le verrons, ils n'ont pas bien compris l'impact que ces miracles pouvaient avoir sur leur vie de disciples, sur leur vie spirituelle, du moins pendant le temps qu'ils ont vécu avec Jésus. Bien entendu, après, le Saint-Esprit a éclairé ces hommes et sont devenus les apôtres que nous connaissons. Ils ont été dans beaucoup de régions, ils ont amené des âmes au Christ, d'autres ont écrit. Matthieu a écrit des évangiles, Pierre des épîtres, etc. Tout. Donc nous voyons que le Seigneur et le Saint-Esprit les a façonnés. Mais pendant que Jésus était sur la terre, eh bien leur esprit était un peu fermé. Dans le premier miracle, une grande foule était assemblée écoutant le message de Jésus. L'enseignement que Jésus apportait était tellement riche, tellement profond, tellement passionnant. Ils voyaient des choses extraordinaires se produire. La foule était captivée. Et bien souvent, elle ne voyait pas le temps passer. Nous voyons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. À partir du verset 13, je vais lire quelques extraits. Donc, Jésus prêche, Jésus guérit. Et au verset 15, il nous dit, « Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, comme je disais, cette foule était tellement captivée qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Et comme il se faisait tard, les disciples qui n'ont pas souvent de très bonnes idées et qui ne sont pas non plus trop forts diplomates quand ils disent quelque chose, se proposent de renvoyer la foule chez elles afin qu'elles se débrouillent pour se nourrir. Mais Jésus s'y oppose. Il ne veut pas renvoyer une foule affamée sur les routes. Il ne veut pas prendre le risque que certaines personnes soient prises de malaise à cause de la faim. Jésus pensait à la santé, à la sécurité de ses auditeurs. Et comme nous avons vu, Jésus demande à ses disciples, mais donnez-leur à manger vous-même. Mais ses disciples, mais enfin, Seigneur, tu ne te rends pas compte. Tu as vu la foule, il y a 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, peut-être qu'ils étaient peut-être 7-8000, 10 000, que sais-je. Et Jésus leur propose de donner à manger. Mais enfin, Jésus, tu es un peu ridicule là, hein, le carrefour est à 10 kilomètres, l'Intermarché est plus loin, tu te rends pas compte que c'est impossible, dans l'endroit où nous sommes, d'aller au supermarché. Mais Jésus, donnez-leur à manger. C'était aussi notre rôle de donner à manger à cette foule qui se perd, soit dit en passant. Et les disciples disent, mais on a 5 pains et 2 poissons. Eh bien, faites asseoir tout le monde, on va souper. Là, ils ont dû être certainement très décontenancés, mais Jésus savait ce qu'il devait faire. Et aucun disciple n'avait anticipé la pensée de Jésus. Mais c'est vrai, on est avec Jésus. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire, parce que nous avons vécu des miracles, des guérisons pendant toute cet après-midi que nous avons été ensemble. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Mais franchement, leur esprit est fermé, malheureusement. Et voilà, nous voyons que Jésus multiplie les pains, les poissons, et la foule est rassasiée. Et je pense que nous, il me semble, nous aurions assisté à un miracle semblable. Enfin, je l'espère, nous aurions été émerveillés de voir un si grand miracle. De voir vraiment toute cette foule rassasiée, manger abondamment. Et nous ne voyons pas dans le texte la joie des disciples. Nous ne voyons pas que les disciples sont enthousiasmés par ce miracle. Nous ne voyons nulle part dans le texte que les disciples louent le Seigneur de voir ce miracle s'accomplir. C'est triste. Et après cela, Jésus congédie la foule pour se retirer afin de prier. Et oui, j'ouvre ici une petite parenthèse. Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier. À plus forte raison, nous, humains, qui vivons des moments difficiles sur cette terre, qui avons nos problèmes, nos difficultés, que ce soit familiales, soit financières, que sais-je, eh bien, n'avons-nous pas besoin de cette intimité avec notre Père, comme lui, le Fils de Dieu, l'avait. Et ça le fortifiait, il avait besoin de ce moment intime. Et si nous voulons fortifier notre foi, eh bien, je crois qu'il est bon de prendre ce temps de prière en solitaire, ou d'élever régulièrement notre voix vers notre Dieu quand nous pourrons nous trouver n'importe où dans notre journée. Passer ce moment d'intimité avec son Dieu, nous voyons dans la suite de l'histoire que Jésus va rejoindre ses disciples qui sont au milieu du lac et ils ont de la peine à ramer avec cette barque. Et Jésus prend un raccourci. Il dit, tiens, je veux traverser le lac, c'est plus facile, je vais les rejoindre plus facilement. Et Jésus traverse le lac à pied. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas, certains disaient que ce n'est pas possible. Je crois l'intégralité de la parole de Dieu, j'espère que vous aussi. Bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre ou à croire ou qui nous laissent perplexes. Mais nous devons croire l'intégralité de la parole de Dieu comme elle l'est et à nous de réfléchir, ou peut-être que nous aurons les explications quand nous serons dans l'éternité avec lui, qui nous expliquera comment certaines choses se sont produites, mais nous devons croire ce qu'il était écrit. Mais Jésus ne fait pas ça pour faire du spectacle, ce n'est pas un numéro de cirque qu'il fait, ou pour amuser la galerie, ça fait bien de marcher sur les eaux. Je crois qu'il fait cela, je pense, afin de prouver aux disciples et au monde qui a lu ce texte qu'il est bien le Fils de Dieu. De démontrer par là qu'il a toute puissance sur la nature, sur les éléments déchaînés, qu'il a toute puissance sur la maladie, sur la mort. Démontrer qu'il maîtrise toutes choses et que rien ne lui est impossible, qu'il est le Dieu tout-puissant. Et dans un autre évangile, nous voyons même Pierre qui s'essaye à la marche sur les eaux. Là aussi, c'est un deuxième miracle. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit une petite phrase et c'est le titre de ma méditation. Il n'avait pas compris le miracle des pains. Il n'avait pas compris. En voyant Jésus, il se demande, mais que fait-il? Qui est-il? Pourquoi fait-il ça? C'est un fantôme, ce n'est pas Jésus. Il n'avait pas compris le miracle des pains. Marc chapitre 6, verset 51, il nous est dit « Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits, malgré tout ce qu'ils avaient vécu pendant cet après-midi, stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. » Quand je vous disais que ce disciple ne se réjouissait pas de voir tant de miracles, ne se réjouissait pas, ne criait pas gloire à Dieu de voir la foule nourrie avec 5 pains et 2 poissons, mais ils n'avaient rien compris. Et quand ils voient Jésus sur les eaux, ils ne comprennent pas ce phénomène. Ils se demandaient qui est-il ? Il est bizarre. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Aucune effusion de joie de la part de ses disciples de voir le maître venir de cette façon à leur rencontre. J'espère que si nous l'aurions vu jamais, nous sommes tellement humains parfois, nous aurions peut-être agi comme les disciples. Ils étaient plutôt dans la crainte que dans la joie. Des événements extraordinaires se produisent sous leurs yeux, mais ils restent de marbre. Nous ne les voyons pas glorifier Dieu en voyant les choses extraordinaires faites par leur maître. Et quelques jours plus tard, la scène se répète. Une grande foule est rassemblée, et l'on peut dire une grande convention. 3 jours de convention avec Jésus. Extraordinaire, si on pouvait l'inviter. Enfin, il est toujours là, c'est pas... Mais un orateur comme lui pendant 3 jours. Vous imaginez, la foule était à l'écoute. Pendant 3 jours, ils écoutent. Et bien évidemment, au bout de 3 jours, les provisions de nourriture sont épuisées. De nouveau, Jésus s'inquiète, parce que c'est Jésus qui s'inquiète. Hein, pas les disciples. Jésus s'inquiète pour la foule, mais ils n'ont plus rien à manger, qui dit. Ces braves gens-là, ils sont venus, ils m'ont écouté pendant 3 jours, et maintenant ils n'ont plus rien à manger. Et bien sûr, il en fait part à son équipe. Ben, pensez-vous qu'ils vont dire à Jésus, « Ben ici, il y a quelques pains, prends-les, multiplie-les, Seigneur, on va bien manger encore une fois, tu es extraordinaire, tu l'as fait il y a quelques jours, maintenant tu vas répéter cela. » Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ils lui répondent, « Où trouver de la nourriture, l'endroit est désert. » Enfin, franchement, Jésus leur demandant, que c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 8, à partir du verset 1, si vous voulez le lire, Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et le donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Il y avait encore quelques petits poissons. Jésus, ayant rendu grâce, les fit distribuer aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on en emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4 000 hommes, bien entendu, parce qu'on ne comptait pas les femmes. Bon, allez, disons qu'il y avait peut-être 8 000 personnes, avec les femmes, les enfants. Ensuite, Jésus les renvoya. Donc, en l'espace de quelques jours, la même situation, et les disciples disent, qu'est-ce qu'on va faire ? L'endroit est désert. Où trouver de la nourriture ? On appelle ça une mémoire de poisson rouge. Hein, c'est souvent comme ça. On se rappelle pas des bienfaits de Dieu. Comme je l'ai dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Une fois de plus, leur mémoire leur fait défaut. Et non seulement la mémoire leur fait défaut, mais c'est surtout leur incrédulité qui est en action. Mais comment cela est-il possible ? Frères et sœurs, nous sommes de la même nature que ces disciples, parce que nous, ça nous fait bien rire, on dit, ah, quel genre ! Mais c'est vrai, on se croit toujours meilleur que les autres. Mais nous sommes incrédules, nous-mêmes. Nous sommes oublieux. Combien de fois ne sommes-nous pas décontenancés face aux difficultés qui surgissent ? Et malheureusement, l'incrédulité peut nous causer de graves problèmes spirituellement. Nous pouvons nous dessécher, perdre toute notre vitalité spirituelle, et même physique, parce que nous sommes fermés à l'action de Dieu. Voilà ce qui peut nous arriver. Si vous vous rappelez, il y a un cas dans les deux rois où le prophète Élisée annonce une grande bénédiction de nourriture pour le lendemain. Et l'aide de camp du roi dit, même si le Seigneur ferait des fenêtres dans le ciel, il ne le croirait pas. Et Élisée a prononcé une malédiction sur cet homme. Et cet homme en est mort quand le miracle s'est produit. Nous pouvons mourir spirituellement, frères et sœurs, si nous nous fermons à la puissance de Dieu, si nous nous fermons, si nous sommes incrédules face aux bienfaits que Dieu peut nous octroyer. J'avance dans le message et je vais prendre Marc chapitre 8. C'est toujours dans la même lignée, vous allez comprendre pourquoi. Marc chapitre 8, au verset 14. Ils sont dans une barque et encore une histoire de pain. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Ils ont oublié de passer au GB, enfin au carrefour, et hop, pas de pain, tant pis. Jésus leur fit cette recommandation. Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain des rôtes. Et les disciples raisonner entre eux, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, mais ça me fait rire, ça, parce que, franchement, Jésus, le sachant, leur dit, mais pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas, ne saisissez-vous pas encore? Avez-vous encore le cœur endurci? Donc là, Jésus pointe leur endurcissement. Et ça nous touche aussi. Il ne faut pas simplement prendre ça. Pour les disciples, prenons-le, cette phrase pour nous. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5 000 hommes, combien de paniers, plein de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore. Ils avaient rien compris à la multiplication des pains. Voilà, nous nous retrouvons avec Jésus dans cette barque, il leur parle sur un plan spirituel. Ils comprennent, eux, un message terre à terre, croyant que Jésus leur reprochait de ne pas avoir pris du pain. Et Jésus, qui connaît vraiment leurs pensées, se fâche, mais pourquoi murmurez-vous? Mais ne comprenez-vous pas ma puissance? Vous avez vécu des instants extraordinaires et vous êtes toujours rempli de doutes, vous demandant comment résoudre tel ou tel problème. Vous refusez de croire. Mais comme je le dis, ne ressemblons-nous pas souvent aux disciples? Et beaucoup disent, je croirai en Dieu quand je verrai des miracles. Si nous voyons, quand nous voyons déjà les disciples, c'est pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu, mais ils étaient remplis de doutes. Quand nous voyons la foule qui suivait Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires, des miracles, des résurrections, des guérisons, des multiplications de pain, des guérisons d'aveugles, de sourds, de muets. Et quand Jésus a été crucifié, ils ont crié « Crucifie-le, nous ne voulons pas ». Mais c'est grave. Je croirai quand je verrai des miracles, mais si votre cœur est fermé, vous ne croirez pas. Et on trouvera toujours une explication à tel ou tel miracle. C'est un phénomène inexpliqué, diront les scientifiques, inexpliqué. Jamais entendu dire à un médecin, c'est un miracle. Non, c'est un phénomène inexpliqué. Vous savez, le corps, des fois, il réagit d'une façon et vous explique là, mais dites que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, c'est le hasard, c'est la nature, voyez-vous. Donc, on peut faire des miracles devant les yeux du monde, ou même de chrétiens, et on nous resterons fermés. On trouvera toujours quelque chose à redire sur le miracle. Oui, les contemporains de Jésus ont vu exactement toutes ces choses-là, ils n'ont pas cru. Frères et sœurs, quant à nous, soyons attentifs à la grâce de Dieu, afin de ne pas ressembler aux disciples. Lors de la multiplication des pains et des poissons, combien y avait-il de personnes et quelle quantité de nourriture était présente? Que s'est-il passé? Tu as multiplié la nourriture, il y avait des restes et combien de corbeilles? Parce que Tout ça a été fait avec abondance. Jésus leur rafraîchit la mémoire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ne comprenez-vous pas que je puis tout, qu'avec votre unique pain que vous avez emporté, je peux le multiplier et vous nourrir tous les 12. Oui, c'est important ce que Jésus dit. Jésus insiste, nous avons emporté des restes. Chaque fois, il y a eu des restes. 12 corbeilles et 7 corbeilles. Cela nous enseigne quand Dieu bénit, il ne le fait pas avec parcimonie. Il bénit avec abondance ses enfants. Dieu bénit abondamment. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. Dieu est un Dieu d'abondance. Ils ne sont pas comme nous qui sommes avares. Non, Dieu est un Dieu d'abondance pour ses enfants. Dieu aime que nous soyons dans l'abondance. Dieu aime que nous soyons dans le confort. Et ça me fait penser à cette parole qui dit dans Matthieu 7, verset 6, que Jésus dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. » Des paroles très dures. Ne jetez pas les choses saintes aux chiens et les perles aux pourceaux. Je ne sais pas, mais parfois on peut peut-être se comporter comme des animaux, de ne pas respecter les choses saintes. Et Jésus le fait remarquer. Ce sont des choses saintes, ce sont des choses extraordinaires. C'est des bénédictions que je vous donne. Ne les méprisez pas, ne les méprisons pas. Alors nous nous comporterions comme des animaux, frères et sœurs. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Jésus sous-entend. Oui, ne méprisons pas la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de petits ou de grands miracles, de petites ou de grandes bénédictions. Ne pas jeter nos perles aux pourceaux signifie que nous devons rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes des humains créés à l'image de notre Dieu, dotés d'une intelligence. Alors, servons-nous de cette intelligence pour rendre gloire à Dieu et rendre vraiment toute la gloire pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et une autre leçon que je retiens, peut-être plus terre à terre, mais qui a son importance, surtout dans notre société de surconsommation, ne jetons pas la nourriture quand il y a abondance. Jésus n'a pas dit, laissez les restes là, les oiseaux du ciel viendront les manger. Jésus dit, allez, on ramasse tout, on emporte, on va distribuer peut-être à ceux qui en ont besoin, on va souper au soir avec ça. Jésus est contre le gaspillage, à nous aussi de partager. Et je suis convaincu que Jésus a fait cela, même si ce n'est pas écrit, je crois que Jésus a fait parce qu'il n'aimait pas le gaspillage, on ne méprise pas la nourriture. Il n'avait pas compris le miracle des pains, nous est-il rapporté. Faisons un retour sur nous-mêmes, frères et sœurs, sans juger les disciples. Car la critique est très facile. N'avons-nous jamais oublié les bienfaits de Dieu et les grâces obtenues à notre égard? Moi, je répondrai par l'affirmative en ce qui me concerne. Je me suis trouvé dans des situations parfois difficiles, remplies d'inquiétudes. Ne pas pouvoir dormir la nuit, oubliant ce que Dieu avait déjà fait dans des situations semblables. Parce que j'avais pas compris le miracle des pains. Et toi, mon frère et toi, ma sœur, as-tu compris le miracle des pains? Quand tu te trouves dans une situation difficile, comment réagis-tu? Comment réagissons-nous? Sommes-nous inquiets? Perdons-nous le sommeil? Au lieu de regarder au Seigneur qui peut tout, nous regardons vers nos difficultés, nous paniquons, perdant nos repères, alors que nous avons un Dieu qui s'occupe des petits oiseaux. À plus forte raison, s'occupe-t-il de nous, ses enfants? Sa parole nous dit, ne promène pas des regards inquiets. Et on peut l'affirmer, combien de fois nos regards sont-ils inquiets? Nous regardons sur l'avenir, nous nous projetons, nous disons, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est vrai. L'apôtre Jacques nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux. Plongeons le regard dans la parole de Dieu. Faisons nôtre les promesses de Dieu qui sont là pour chacun d'entre nous. Bannissons le doute dans nos vies. Frères et sœurs, le doute est un frein à notre épanouissement spirituel. Le doute nous conduit dans le chemin de la crainte, de l'angoisse. Le doute est la porte ouverte pour que notre ennemi s'engouffre dans notre vie, pénètre dans notre vie, pénètre notre esprit, pénètre notre cœur. Nos pensées, ils sèment des pensées négatives qui vont polluer notre vie spirituelle. Le doute, frères et sœurs, produit un écran entre nous et Dieu. Nous le perdons ainsi de vue. Et le doute installe l'incrédulité. On ne croit plus. On ne dit, c'est pas possible. Dieu n'interviendra pas. Le cas est trop difficile. Parce que je n'ai pas compris le miracle des pains. Les moments que nous vivons, frères et sœurs, en ces temps, sont inquiétants. C'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face. On peut être déstabilisé par la situation mondiale. L'Église peut se sentir menacée, perdre courage. À nous de redoubler dans la prière face à ce qui arrive, car l'avenir est incertain. Et c'est vrai que toutes ces choses ont été annoncées par notre Dieu, que ce n'est que le début des douleurs, mais tout ça doit arriver, mais gardons notre confiance en Dieu. Il y a toutes sortes de bruits qui circulent, véridiques ou pas, concernant des risques de pénurie, de produits alimentaires, de combustibles, de pièces de rechange, etc. Beaucoup de choses qui sont en pénurie pour l'instant, et je le vis tous les jours au garage, et on a des prises de tête avec les clients parce que leurs voitures sont en panne, on n'arrive pas à les réparer parce qu'on ne reçoit pas les pièces. Et ça fait toujours des conflits. Et on essaye de les gérer, on essaye de dépanner. Enfin, parfois, je passe des demi-heures au téléphone pour trouver des solutions pour certains clients, pour trouver des pièces. C'est quelque chose de terrible. Et dans tous les domaines, les gens sont inquiets. On n'a plus notre confort habituel. Et les médias sont aussi de grands spécialistes pour créer la panique. Si vous voulez vraiment vivre dans la panique, branchez-vous sur LCI. Vous allez faire une dépression canon, parce que là, ils ont le pompon d'en remettre et tout ça. C'est pas qu'ils racontent des bêtises, mais bon, vous avez une tête comme ça et vous allez peut-être vous jeter par la fenêtre de votre appartement, si vous habitez un appartement. Mais voilà. Et nous, à juste titre, nous sommes inquiets, c'est vrai. La situation politique, sécuritaire, tout ça est instable pour le moment. Mais nous devons savoir, frères et sœurs, que Dieu tient notre vie dans sa main. Que Dieu tient ce monde dans sa main. Et réalisons ce que Jésus disait, votre Père sait. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est un texte bien d'actualité en ce moment. Frères et sœurs, ne tombons pas dans la crainte, dans la panique. Ayons les pieds sur terre, ne disons pas « Ah, c'est pas grave ». Non, soyons sérieux. C'est vrai, la situation est grave. Mais confions-nous en Dieu. Comprenons le miracle des pains. Comprenons que Dieu tient notre vie dans sa main. Notre Dieu sait que nous devons manger. La preuve, par deux fois, il a nourri la foule. Il savait que ces gens-là avaient faim. Il savait que ces gens-là, s'il les renvoyait, allaient peut-être faire des malaises en route parce qu'ils avaient faim. Il sait bien que nous devons nous habiller. Il sait bien que nous devons nous chauffer. Faisons confiance à Dieu. Je ne sais pas comment il va agir pour chacun d'entre nous si nous sommes dans des difficultés ou des situations difficiles face à cette crise mondiale qui nous atteint. Mais faisons-lui confiance. N'oublions pas le miracle des pains ce matin. Repensons aux bienfaits que Dieu nous a accordé dans le passé, dans notre vie. Repassons, compte les bienfaits de Dieu, nous dit ce cantique. Avons-nous déjà pensé à compter les bienfaits de Dieu, les bienfaits de notre Sauveur, chaque fois que nous sommes tombés dans la difficulté? Notre Dieu est le même, il ne change pas. Ne comptons pas sur nos propres forces, ni sur la technologie. Vous avez entendu entendu Henri. 14 heures sans Internet, mais c'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est terrible. Et il est vrai que quand j'ai commencé, il y a très longtemps, à travailler, on pouvait tomber en panne d'électricité, j'avais ma machine à écrire, je pouvais faire les factures aux clients. Maintenant, on n'a plus Internet, les clients partent sans payer, parce que le contact est en panne, on ne sait pas sortir une seule facture. Les clients se frottent les mains, bien entendu, parce qu'après, s'ils sont mal en aide, pour récupérer votre argent, vous pouvez toujours courir. Hein. Mais voilà, ça c'est la technologie. Donc si nous comptons sur notre technologie, nous allons être déçus si nous voulons sortir d'affaires. C'est vrai qu'elle est là, qu'elle nous aide, c'est extraordinaire. Nous avons des micros, nous avons toute une technologie à notre service. Quand ça marche, c'est formidable. Mais quand ça ne marche pas, frères et sœurs, quand ça ne marche pas, hein, alors là, on panique. Mais notre Dieu, c'est l'ordinateur central par excellence. Il écoute des milliards de prières en une fraction. Pour l'instant, il écoute un tas de choses, il voit un tas de choses. C'est extraordinaire, c'est l'ordinateur, je peux me permettre, le plus perfectionné du monde que notre Dieu, parce que ça, aucun ordinateur ne peut faire ni agir comme lui. Il le fait. Alors, n'ayons pas peur. Comptons sur le surnaturel de Dieu, frères et sœurs. Et là, c'est vrai que dans notre monde, on ne croit plus trop au surnaturel de Dieu. Même dans nos églises, on ne croit plus au surnaturel de Dieu. Nous appelle les illuminés quand on dit que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Tant pis si nous sommes des illuminés, nous sommes de lumière, oh, voilà. Les gens voient en nous la gloire de Dieu. Oui, vous savez qu'il est écrit dans la Bible que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Donc les choses que nous ne voyons pas, Dieu les appelle déjà et les prépare pour chacun d'entre nous. Alors, faisons-lui confiance et il agira. Et surtout, n'oublions pas le miracle des pains. Amen.